et bienvenue dans Échec Critique, l'émission qui est à Transhistorien ce que le club Nanar est à Champ Libre. Après un premier épisode sur les fails dictatoriaux, nous abordons aujourd'hui un sujet plus léger, tout en musique, mais tout aussi grandiose, en nous attaquant à l'opéra. En effet, combinaison de manifestations sonores, visuelles, corporelles, plastiques, l'opéra, comme le lancer de nains australiens, a depuis longtemps entretenu une réputation d'art total, touchant l'ensemble du corps social et capable d'électriser les foules. Est-ce un hasard si Rousseau a vu dans le chant et le spectacle l'origine de l'état de société, l'invention qui tira l'humanité de son paradis naturel pour la jeter dans la mer de vices et d'hypocrisie de la vie communautaire? Cependant, lorsque le Genevois décrivait cette catastrophe, avait-il pleinement conscience de l'apocalypse que l'invention de la scène et des vocalises avait déclenchée? En avait-il seulement perçu toutes les dimensions? Car si la scène d'opéra a été un véritable champ de bataille qui a vu s'affronter les plus grands talents et engraisser les plus forts amours-propres, elle a également été le biais privilégié pour l'expression d'un genre de virtuose qui nous intéresse aujourd'hui. Notez d'ailleurs qu'il est souvent arrivé que ces deux catégories se côtoient et joignent leurs talents respectifs pour le plus grand plaisir d'un public en extase. C'est ce qui se produisit en 1876 à l'occasion de la première de Siegfried, le magnifique opéra de Wagner. Il n'y aurait pas grand risque à parier que tout notre auguste auditoire connaît le nom et la réputation de Richard Wagner, immense compositeur d'opéra et de symphonies grandioses. Mais même les génies de cette envergure ont besoin de l'aide de petites mains anonymes pour achever leur chef-d'œuvre, et c'est en particulier l'un de ces anonymes qui permit au grand Wagner d'inscrire son œuvre dans l'idéal du romantisme, le sublime et le grotesque. Et pourtant, l'affaire était plutôt bien partie. Troisième volet de l'Anneau de Nibelung, la tétralogie lyrique reprenant les légendes de la mythologie nordique, Siegfried avait tout pour faire péter l'épicomètre de Peter Jackson et de Ridley Scott réunis. Nain forgeur d'épées magiques, valkyrie déchue, superbe brute blonde nietzschéenne avide de sang et de carnage, nom de personnage à faire passer le Klingon pour une jolie langue latine, bref, à côté de Siegfried, le Seigneur des Anneaux aurait pu passer pour un conte du Père Castor. Les deux premiers opus, L'Or du Rhin et La Valkyrie, avaient déjà connu un immense succès lors de leur création quelques années auparavant. Et puis, les moyens déployés par Wagner pour mener à bien son projet étaient énormes. Rendez-vous compte, le Palais des Festivals de Bayreuth, cette grande salle où se tient encore de nos jours l'un des plus grands festivals d'opéra du monde, fut construite spécialement pour jouer la tétralogie de Wagner. Un bâtiment entièrement conçu pour répondre aux contraintes techniques imposées par la folie grandiose d'un compositeur au sommet de son art. Alors, que s'est-il passé pour que je puisse vous raconter cette histoire aujourd'hui? Avant que je vous le dise, souvenez-vous bien de ceci. La nature a horreur du déséquilibre. Et suivant cette loi, un génie comme Wagner finit toujours par rencontrer le Mozart de l'incompétence. En effet, dans Siegfried, l'intensité devait atteindre son maximum dans une scène où le héros, armé de sa légendaire épée Nothung, terrasse le dragon Fafner, gardien d'un fabuleux trésor. Pour figurer le reptile, Wagner avait recouru au service d'un atelier de fabrication de décors établi à Londres. À cause de la taille conséquente du reptile en bois, il était convenu que les pièces seraient envoyées séparément, puis assemblées à Bayreuth. La queue arriva en premier, puis ce fut au tour du tronc terrible et de la tête effroyable. Mais si terrible que fut le tronc et si effroyable que fut la tête, la bête perdait tout son aura sans le cou qui les reliait. Or, le cou du dragon n'arriva jamais à destination. Le jour de la première représentation, le public vit donc le vaillant Siegfried terrasser une sorte d'énorme gecko dont un Wagner blême avait dû se résoudre à faire monter directement la tête sur les épaules. Quoi de plus épique? On découvrit plus tard que ce miracle était dû à la bourde d'un larbin de l'atelier londonien qui n'avait visiblement pas le sens géographique. Au lieu d'envoyer le coup à Bayreuth, en Allemagne, il l'avait envoyé à Beyrouth, au Liban. L'histoire ne raconte cependant pas ce que pensèrent les Libanais quand ils reçurent ce chargement. Sans doute la même chose que moi la première fois qu'on m'a présenté un de leurs taboulés avec plus de persil que de semoule. C'est très vert. Mais je m'égare. Il existe aussi des génies tels qu'ils n'ont besoin de personne pour exprimer tous leurs talents. Florence Foster Jenkins était sans conteste de cela. En effet, celle qui a inspiré l'héroïne du film Marguerite de Xavier Giannoli, qui aurait, dit-on, inspiré à Hergé le personnage de la Castafiore, est réputée pour avoir été la pire chanteuse de l'histoire. Attention, quand je dis « la pire », je ne veux pas dire qu'elle chantait mal, ni même qu'elle chantait faux. Ce que je veux dire, c'est qu'elle chantait plus faux que la théorie créationniste et plus mal que Patrick Bruel avec un cerf-volant coincé dans la gorge. Mais même en vous disant cela, je ne suis pas sûr que vous vous rendiez bien compte. Heureusement, figurez-vous qu'il existe des enregistrements. Et oui, la douce voix de cette charmante dame a été immortalisée dans les années 40, alors qu'elle interprétait les plus grands airs d'opéra. Ces enregistrements ont été réédités en CD que je recommande très vivement à tous les amateurs de chant lyrique, ne serait-ce que pour apprécier n'importe quelle autre performance qu'ils auront l'occasion d'écouter par la suite. Écoutez plutôt et jugez vous-même. Mes pauvres enfants, c'est bien la reine de la nuit que vous venez d'entendre. C'est bien le grand Mozart qu'on assassine. Quand je vous disais que les génies finissent toujours par se rencontrer. La question que tout le monde se pose après tel dépucelage auditif est la suivante. Comment en est-on arrivé là ? Née en 1868 dans une riche famille de Pennsylvanie, elle voulait depuis toujours devenir une grande artiste. Papa, cependant, refusait de l'autoriser à partir étudier la musique à l'étranger. Mais sa passion était telle qu'elle s'enfuit de la maison familiale avec le docteur Frank Tonton Jenkins, qui devint son mari. Malheureusement, ce dernier ne se montra finalement pas plus enthousiasmé que son beau-père à l'idée de voir Florence monter sur scène. L'histoire ne dit pas pourquoi, mais j'ai ma petite idée. Ce ne fut donc que lorsque Papa Foster mourut en 1909, en laissant à sa fille une fortune colossale, que Florence put se consacrer pleinement à sa vie artistique. Elle prend des cours de chant, s'offre les services d'un grand répétiteur, Cosme McMoon, qui l'accompagne au piano durant toute sa carrière, et fonde même le Club Verdi de Philadelphie, un club féminin de passionnés de musique et de chant. C'est dans le cadre de ce club qu'elle fait ses premiers pas sur scène, avec un succès unanime. Il faut dire qu'elle y mettait les moyens. Louant des salles de spectacle à grands frais, et distribuant les places à ses seules connaissances, elle était sûre d'être acclamée. Devant la rumeur qui se répandait et l'afflux toujours plus massif d'aspirants spectateurs, il lui fallut se résoudre à ouvrir quelque peu son public. Mais attention, ne venez pas au spectacle qui voulait. Pour avoir l'honneur d'écouter la Jenkins, il fallait d'abord prouver qu'on était digne de la Jenkins. Elle faisait passer des auditions dans lesquelles les candidats devaient faire montre de bonne tenue et d'une grande culture musicale, conditions auxquelles était subordonnée l'obtention des précieux tickets. En 1943, un accident de taxi eut sur elle un effet inattendu. Touchée à la gorge, elle se rend compte que, loin d'être vocalement limitée, elle peut désormais atteindre des notes bien plus hautes, comme nous avons pu l'entendre dans le précédent extrait. Ajoutez à cela l'insistance de plus en plus pressante de ses amis du club d'opéra, et la voici assez en confiance pour son premier et seul grand récital totalement ouvert au public, le 25 octobre 1944 au Carnegie Hall de New York. L'engouement est énorme. Les places se vendent plusieurs semaines à l'avance et on doit refuser 2000 personnes. Dès les premières secondes, le public est conquis. La Jenkins se surpasse. Surmontée de deux énormes ailes d'ange ou lançant des roses dans le public, changeant trois fois de costume avec un crescendo d'extravagance, elle interprète les plus grands airs d'opéra d'une manière que jamais on n'aurait pu imaginer avant elle. Le succès est total. Les fous rires du public font trembler le théâtre. L'actrice Tallulah Bankhead rit tellement fort qu'on doit la faire sortir parce qu'elle couvre la musique. Mais après l'euphorie et l'ovation, viennent les critiques. Celles qui paraissent après le Carnegie Hall sont assassines. Qu'importe à la Jenkins, les critiques sont soit influencées par ses ennemis, soit des incompétents qui ne connaissent rien à son art. Et c'est ainsi, à l'apogée de sa carrière, et avec une confiance inébranlable en son talent, qu'elle s'éteignit un mois après son dernier récital, à l'âge de 76 ans. Et puisqu'avoir tort en musique est un don qui n'est pas donné à tout le monde, je finirai en vous rapportant le commentaire que l'empereur Ferdinand d'Autriche fit après avoir écouté le mariage de Figaro. « Beaucoup trop bruyant, mon cher Mozart, beaucoup trop de notes !» Comme quoi, et pourtant, cette fois-ci, ce n'était pas la Jenkins qui interprétait.